Ne laisse pas les circonstances régner dans ta vie. Laisse l'espérance changer les circonstances. Si les circonstances te disent c'est impossible, Dieu dit je l'ai promis. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Ton fils dans la drogue, mais toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Ta femme veut te quitter, mais toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. L'espérance de Dieu est plus grande que ma circonstance. Oui, en ce moment, c'est la crise financière en France. Oui, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, mais tu sais, en ce moment, il n'y a plus d'argent dans les caisses et tout le monde vole tout le monde. Oui, mais Dieu dit dans Deutéronome que c'est lui qui nous donne la puissance pour faire des richesses.
Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Je ne me contenterai pas d'Ismaël. Je ne me contenterai pas d'Ismaël dans ma vie. Trop de chrétiens se contentent d'un Ismaël. Mais le temps est arrivé ce soir où Dieu dit, je ne me contenterai pas d'un Ismaël dans ta vie quand j'ai prévu un Isaac pour toi. Hébreux 11, verset 1 nous dit, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Depuis quelque temps déjà, je m'inquiète pour quelques chrétiens dans la francophonie. Ces chrétiens qui se laissent envahir par la passivité, ils ont accepté une foi anesthésiée et anesthésiante. Ce genre de foi qui dit « Reste tranquille dans ton cercueil, Jésus vient te chercher bientôt » et ils sont déjà morts alors qu'ils devraient être vivants. Et ils sont morts parce qu'ils ont accepté que Ismaël prenne le règne et le contrôle de leur vie alors que Dieu a un Isaac pour eux. C'est une foi anesthésiante, agissant comme un tranquillisant. Une foi qui te dit, oui, tu vas au ciel, mais attends paisiblement le retour de Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas censés quitter en silence. Je ne suis pas censé quitter la terre en silence. Et je laisserai l'empreinte que Christ veut que je laisse sur terre avant de mourir. Oh, oh, oh. Hey, tu vas commencer à bouger ton corps, un de ces quatre. Je vais prêcher jusqu'à ce que le feu vous tombe dessus en disant « Je refuse de quitter cette terre en silence. » J'ai un Isaac en moi. Je suis enceinte. Gabriel, tu es enceinte. Steve, tu es enceinte. Enceinte. Ce genre de foi nous pousse à attendre d'aller au ciel au lieu de faire descendre le ciel. Ce genre de foi qui est anesthésiante. Quelle est cette foi anesthésiante ce soir? Écoutez bien, mes amis. La foi anesthésiante, c'est la foi dénuée, cette foi privée d'espérance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si j'enlève ton espérance, ta foi est au chômage. Si j'enlève ton espérance, ta foi ne sait pas pourquoi travailler. Cette foi dont je parle est une foi radicale qui refuse la fatalité, qui refuse de laisser la société française prendre le contrôle de mon âme. Cette foi dit non, 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 quelles que soient les lois, quelles que soient les règles, oui, je respecterai les lois, mais je vivrai selon les règles du royaume. Cette foi qui dit qu'il y a un Isaac en moi, je suis enceinte et toi aussi. Cette foi qui fait de toi et de moi des conquérants. Il y a des gens qui laissent leur vie défiler devant eux et n'arrivent même plus à la vivre. Ce soir, Dieu me dit de vous dire que lui, Dieu lui-même, ne se contentera pas d'Ismaël dans ta vie, alors qu'il a prévu un Isaac. Hébreux 11, verset 1 nous dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Ma question c'est, qu'est-ce que tu espères ? Mon espérance ce soir, c'est le projet de Dieu. L'espérance, selon Dieu, est plus grand que tous les rêves réunis. Les rêves ne sont que des pierres de construction de mon espérance. L'espérance est plus grande que mes rêves. L'espérance est de voir des stades remplis d'hommes et de femmes élever le nom de Jésus-Christ indépendamment des dénominations. Vous verrez les stades remplis de chrétiens à La Réunion. Et vous verrez les stades remplis à Paris. Vous verrez des dizaines et des milliers de chrétiens prendre la nation pour le roi des rois. Ça, c'est mon espérance et c'est, je suis sûr, aussi la vôtre. Avec moi dans Genèse 17, verset 14, écoutez bien ça. Celui qui n'aura pas été circoncis sera retranché de son peuple parce qu'il n'aura pas respecté les clauses de mon alliance. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui concerne ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, ma princesse. Désormais, son nom est Sarah, princesse. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra la mère de plusieurs nations, des rois, de plusieurs peuples sortiront d'elle. Tu as beau être stérile ce soir, il y a un roi en toi. Tu as beau croire que tout est fini, il y a un roi en toi. Il y a des nations en toi. Il y a des richesses en toi, des talents et des dons, une onction en toi. Le principe est simple. Tu dois cesser de juger ce qui est en toi en regardant ce qui est autour de toi. Cesse de juger ce que Dieu a mis en toi en regardant ce qui est autour de toi. Ce qui est autour de nous n'est pas une indication de ce que Dieu a mis en moi. Dieu a mis en moi un roi. Dieu a mis en moi une puissance. Dieu a mis en moi une onction. Dieu a mis en toi une destinée. Verset 17. Alors Abraham se prosterna de nouveau de la face contre terre et il se mit à rire. Imagine la scène, Dieu te parle, te dit « Je vais te donner un fils » et tu te mets à rire. Parce que la date de préremption était sur le paquet. Et quoi un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant? De nombreuses personnes, ce soir en ce lieu, me disent « Bruno, j'ai plus d'espérance, j'aime Dieu, je crois en lui ». Je n'espère plus. Si tu crois en Dieu sans espérer, alors ta foi est devenue une foi anesthésiante. Oh Seigneur, c'est trop dur, j'ai tout essayé. J'ai essayé de faire ton plan à ma façon, j'ai eu Ismaël. J'ai galéré à gauche, j'ai galéré à droite, j'ai changé d'église 10 fois, 100 fois. Je suis tombé, j'ai divorcé, je me suis remarié. Seigneur, tout ce que j'ai, mon passé est trop lourd. Je ne peux plus mettre ma destinée en action. Et Dieu dit, non, ne commets pas l'erreur colossale de te contenter de ton Ismaël quand je veux te donner un Isaac. Verset 18. Et il dit à Dieu, écoutez le piège le plus fou pour l'Église. Et il dit à Dieu, tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. Le gars, c'est que tu es arrivé à un stade de sa vie où il s'est contenté d'une foi anesthésiante. Ce genre d'église qui dit, ce qui compte, c'est que tout roule. Si l'église est pleine, ça nous suffit, c'est bien. Non, ça ne suffira jamais le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu veut dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Le cœur de Dieu, ce n'est pas de construire une église sympa. Le cœur de Dieu est de réformer une nation. Faites de toutes les nations des disciples en leur enseignant à observer ce que je vous ai prescrit. Il y a un Isaac en toi ce soir, Jim. Il y a un Isaac en toi ce soir, Olivier. Regarde ton voisin et dis, Dieu ne se contente pas de ton Ismaël. Verset 19, Dieu reprit. Mais non, c'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac, parce que tu as ri. Et j'établirai mon alliance avec lui pour l'éternité et avec sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, j'ai aussi entendu ta prière en sa faveur. Oui, je le bénirai. Je lui donnerai aussi de très nombreux descendants. Je le multiplierai à l'extrême. 12 princes seront issus de lui et je ferai de lui l'ancêtre d'une grande nation. Mais, j'établirai mon alliance avec Isaac. Le problème des chrétiens, c'est que les chrétiens pensent que la bénédiction signifie alliance. Dieu a béni Ismaël, mais il n'a pas fait alliance avec Ismaël. Qu'est-ce que ça signifie? Les Ismaël peuvent être bénis, mais ils n'auront pas d'héritage. Seul Isaac est capable de délivrer, libérer l'héritage que Dieu a pour les générations suivantes. Et quand un chrétien se contente d'un Ismaël, il se contente d'être béni jour après jour. Rien de mal à être béni, mais quand la bénédiction prend la place de ce que Dieu a pour toi, la bénédiction est devenue une idole. Et tu te contentes d'être d'un Ismaël, tu te contentes d'être béni, alors que Dieu veut que tu laisses un héritage. C'est que je vous aime. J'essaie de tout mon cœur de vous prêcher mes tripes afin que vous puissiez sortir de ce lieu en disant « Je refuse l'Ismaël, je veux l'héritage que Dieu a pour moi. » Quel que soit ton âge ce soir, ce que Dieu parlait à Abraham juste avant, il dit « Abraham, tu appelleras Sarai, Sarah. C'est toi qui changes le nom de Sarai. » Donnez-moi quelques secondes, quelques minutes. Verset 22. Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ismaël ainsi que tous ceux qui étaient nés chez lui et tous ceux qui avaient été achetés, tous les hommes parmi les membres de son foyer. Il les circoncit le jour même conformément à l'ordre que Dieu lui avait donné. Heureusement qu'on ne vit plus à l'époque. Puis tout d'un coup, Henri Paul dit « C'est bon les gars, maintenant, on est dans ma famille, tout le monde est circoncis. 3 ans, 10 ans, 40 ans, allez passe, viens Michael. » Ouh, Gabriel, snip, snip. Vous les femmes, c'est cool pour vous. Pour nous, c'est moins cool. Verset 24. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Quant à son fils Ismaël, il était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Le jour même, Abraham fut circoncis, ainsi que son fils Ismaël et tous les membres de son foyer, qu'ils soient nés chez lui ou aient été achetés à des étrangers, furent circoncis avec lui. Trop de chrétiens se contentent d'un Ismaël. Je pensais cette semaine à Hébreux 11, on l'a lu ensemble au départ. Et dans Hébreux 11, vous avez cette fameuse liste de versets qui dit « Par la foi, 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 par la foi. » Et les chrétiens oublient que le contexte de ce passage, c'est le verset numéro 1 qui dit « Or, la foi est une ferme assurance de l'espérance. » La foi est active quand l'espérance est vivante. La foi se désactive lorsque l'espérance meurt. Quelle est ton espérance ce soir? La foi est la substance des choses qu'on espère. Sans espérance, la foi que tu as est anesthésiante. Avez-vous déjà fréquenter des chrétiens qui se disent avoir la foi mais qui n'ont plus d'espérance? Tout ce qu'ils déclarent c'est « oui mais, si seulement j'avais plus, oui mais tu comprends en ce moment, j'ai la foi mais. » Viens à l'église jour après jour, semaine après semaine et prennent du temps à remarquer toutes les circonstances avec des « oui mais » et personne ne pense à l'espérance qui transcende toutes circonstances. L'espérance est plus grande que ta circonstance. Et si ta circonstance est plus grande que Dieu ce soir, c'est que tu as fait de ta circonstance ton Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est te rappeler ce soir qu'il est souverain et il est sur le trône. Et le roi des rois serait dans ses lourdes disant, j'ai mis un Israël en toi. L'espérance, c'est le rêve de Dieu pour ta vie. Vous savez, je passe mon temps à encourager des gens. Et parfois, en les encourageant, je me décourage. Je me dis ça aussi, je me dis, j'ai beau dire, répéter, envoyer des SMS, des emails, des Twitter, ce que tu veux, et je bombarde d'encouragement. Je dis, et la foi, mais ça ne marchera pas tant que la personne n'a pas récupéré son espérance. Parce que la foi est activée par l'espérance. As-tu accepté le statu quo? Vous savez, la pire chose que vous pouvez faire à un prophète, non, la meilleure chose, écoutez bien ça, l'église, la meilleure chose que vous puissiez faire à un prophète, c'est de lui dire non quand Dieu dit oui. Ou lui dire oui quand Dieu dit non. Contredire un prophète qui a entendu la voix de Dieu, c'est activer le combat spirituel en lui. Si la France dit qu'une église ne peut pas être bénie, moi je déclare que l'église sera ultra bénie. Si la France dit que les pasteurs ne peuvent pas prêcher la parole de Dieu, moi je dis que les pasteurs prêcheront la parole de Dieu. Et si la France dit, ok, va en prison, je dirai, je prêcherai la parole de Dieu en prison. Oh, nous lisons Paul. Oh, l'apôtre Paul, il a vécu une vie assez glorieuse, comprenez, dans la galère. Aujourd'hui, les chrétiens, nous, ce qu'on veut, c'est uniquement les Ismaël. Ismaël, c'est faire le plan de Dieu à sa façon. Être béni. C'est bon, je suis béni, c'est cool. Non, non, tu vas couler, mec. C'est pas cool, tu coules. Cette semaine-là, il y a deux jours, j'étais démoralisé quand j'ai vu une pancarte. Je ne fais pas d'anti-pub, mais c'est important de voir ça. Je passe devant une entreprise de croque-mort, pompe funèbre, coup de pompe funèbre. Et les gars disaient, préparez votre mort pour vous et votre famille. Un cercueil acheté, un cercueil offert. Sérieux ? Ne laissez pas votre famille ne laissez pas la mort vous prendre par surprise, vous, votre famille. Commandez un cercueil dès aujourd'hui et vous aurez un prix spécial. Mais tu es fou, quoi ! Comme si je vais prendre mon temps à préparer ma mort. Ça va pas, je vais vivre jusqu'à la fin. Je ne mourrai pas avant mon temps. Ah, mais les gens sont... Ouais, mais tu sais, ouais, là on rigole, mais la plupart des chrétiens ont déjà commandé leur cercueil spirituel. C'est plus confortable, plus sympa, plus cool. J'ai passé l'âge, me dit-on. J'ai 52 ans, tu vois. À ton âge, j'étais comme toi. Va lire Abraham. Ouais, mais lui, tu sais. Trop petit, trop grand, trop gros, trop mec. Parle trop vite, parle pas assez vite. Trop riche, pas assez riche, trop intelligent. Réveille-toi. Dieu n'a pas besoin de tes talents pour lancer un réveil. Il cherche ton cœur. Vous avez-vous déjà demandé pourquoi est-ce que Dieu, Jésus-Christ, a choisi de ressusciter Lazare? Je vous dis, parmi tous les gens de l'époque, intelligents, riches, influents, tous les gens de l'époque, il a choisi Lazare. Il aurait pu ramener d'entre les morts, je ne sais pas moi, Élie, César, enfin, il est encore vivant à l'époque, je ne sais pas. Le gars qui était mort avant, là, avant César. Hein? César, senior de junior, enfin bref. Jésus aurait pu ressusciter n'importe quel homme proéminent de l'époque, n'importe quel homme d'influence de l'époque, et choisit un gars qui s'appelle Lazare, que très peu de gens connaissent, que peu de gens aiment, qui n'a pas d'influence à part qu'il a copain à Jésus. Pourquoi ? Parce que le jour où il fallait prouver que Christ était Dieu et ressuscité, le simple fait que Lazare respire toujours prouvait la puissance de Dieu. Écoutez bien ça. Dieu n'attend pas que toi et moi nous ayons les plus grands talents pour changer la France. Il attend que toi et moi nous vivions la vie de la résurrection. J'étais mort et maintenant je suis vivant. J'étais un pécheur et maintenant je suis sauvé. J'étais un sirop et maintenant je suis un concentré de Dieu. Regarde ton voisin et dis, est-ce que tu as acheté ton cercueil déjà? Qui connaît le passage qui dit, Romains 10, 17, « Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » L'usine qui manufacture la foi, c'est une usine de paroles. Écoutez bien cela. Lorsque tu entends que des rapports négatifs, tu détruis ta foi. N'écoute pas les rapports négatifs, mon cher ami désiré. Fabrice, n'écoute pas les rapports négatifs. Les rapports négatifs détruiront ta foi. Si je devais écouter les rapports pour construire avec le Seigneur Jésus-Christ, l'Église de Christ, nous ne serions jamais là ce soir. On serait toujours en train d'écouter des psaumes avec la famille Harbour. Sans jugement aucun. Regarde ton voisin, dit, tu es taillé pour vaincre. Dis-lui, jette ta boîte de sédatifs. C'est quoi ce chrétien qui me dit, tu sais Bruno, ouais, j'ai des projets, j'ai la foi, mais tu comprends, j'ai pas d'argent. Mais quel rapport? Depuis quand est-ce qu'il faut de l'argent pour faire le plan de Dieu? Je veux dire, avant de commencer. Vous savez ce qui pousse les gens à ne pas écouter des chrétiens qui marchent sous sédatifs? C'est que les chrétiens proclament pleine vérité, mais ne vivent pas ce qu'ils disent. Ils sont dans un cercueil spirituel. Mais quand ta foi est radicale, quand ta foi est active, c'est parce que l'espérance est devant toi et tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que Dieu est pour toi. Donnez-moi juste 7 minutes. Par la grâce de Dieu, et je vais terminer avec juste quelques points, 5 points rapides. Notez, parce que ça va aller vite. 5 points que je tire de ce passage en Genèse. Genèse 17, verset 14, il dit « Celui qui n'aura pas été circoncis sera retranché de son peuple parce qu'il n'aura pas respecté les clauses de mon alliance. » Premièrement, ce soir, l'alliance vient avant la circoncision. Expliquer. Tu ne peux pas circoncire ton cœur. Le mot circoncire, la circoncision symbolise l'acte de retrancher, écoutez bien ça, hein, l'acte de retrancher tout ce qui n'est pas essentiel à la reproduction. Toute œuvre de la chair. Quand Dieu dit je veux circoncire ton cœur, il veut dire je veux enlever tout ce qui n'est pas essentiel pour que tu reproduises ma vie selon mon cœur. Mais cette circoncision de cœur, cette discipline de vie, ce style de vie ne peut venir qu'après avoir respecté, compris, accepté l'alliance. L'alliance, c'est l'espérance. Je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais bon, l'alliance, c'est quand Dieu vient te voir et dit « Tout ce que tu as, tu me le donnes, tout ce que j'ai, je te le donne. » Croyez-moi les gars, on est gagnants. Et Dieu dit « Les termes de mon alliance, c'est je connais les projets que j'ai formés sur toi. » Des projets de paix, non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11 à 13. Et il dit, voilà, je suis là pour toi, voici mon alliance. Et quand tu commences à respecter, honorer les clauses de son alliance, l'espérance est devant toi, tu peux vivre une vie de circoncision. Entre termes, tu vas commencer à enlever tout ce qui n'est pas utile, vital à la réussite de ta mission. Deuxième chose, verset 15, Dieu dit à Abraham, « Pour ce qui concerne ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, qui signifie ma princesse. Désormais, son nom est Sarah. » Écoute bien ça, c'est un principe fondamental que j'essaye de vivre et que la plupart des gens qui m'entourent ne comprennent pas. Avant d'entrer dans ta mission, change ton nom. Principe fondamental. Dieu dit à Abraham, change le nom de Sarah avant de passer à l'acte. avant de créer Isaac, avant de procréer Isaac, tu t'es circoncis, c'est bien, maintenant écoute-moi bien, change son nom, elle n'est plus ta princesse, elle n'est plus ta destinée, elle n'est plus ta vie, elle n'est plus ton bien. C'est ma mission qui prend le contrôle. Change ton nom avant d'accepter sa mission. Écoutez bien ça, trop de gens me disent, je suis un prophète, mais ne vivent jamais en prenant des risques. Si vous voulez simplifier la vie d'un prophète, c'est très simple. Si vous voulez l'expliquer simplement, la vie d'un prophète, c'est deux points, j'ouvre les guillemets, celui qui prend des risques continuellement. Virgule, celui qui nage tout le temps à contre-courant. Virgule, un prophète est celui qui fait tout différemment des autres. Point. Essayez, vous allez voir. Oh, pasteur, je veux être prophète. Waouh, ben avant d'être prophète, avant de prendre ta mission, change ton nom. Ça veut dire change, et Stéphane a parlé au week-end dernier, ton identité. Sache une fois pour toutes qui tu es vraiment. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras jamais vivre pleinement la mission que Dieu a pour toi. D'autres me disent, je vais être milliardaire, je vais être un homme d'affaires, je vais être riche, mais ils continuent à vivre comme des pauvres. Je vais, sans vous choquer, il y a quoi, 20 ans de cela, ils ont fait un calcul, ils ont dit, voilà, si nous devions prendre toutes les richesses du monde à l'époque et les redistribuer à tous les êtres humains, chaque être humain recevrait instantanément 12 millions de dollars. Tous les hommes de la Terre, toutes les femmes, tous les enfants recevraient 12 millions de dollars. Mais ils ont prouvé que 20 ans après, ceux qui étaient riches avant le partage seraient à nouveau riches, ceux qui étaient pauvres avant le partage seraient à nouveau pauvres. Parce que la richesse n'est pas de la chance, la richesse en général est une conséquence d'un système de vie que tu mets en place avec des principes fondamentaux que tu respectes. Seigneur, j'attends sur mon canapé que le million tombe. Dieu dit, on se verra au ciel. Seigneur, tu ne m'aimes plus ou quoi? Si je t'aime, mais je ne me sers pas des gens qui ne bougent pas. Bouge. Change ton nom, ça veut dire commence à vivre selon la mission. Écoutez bien ça, Dieu dit à Abraham, Abraham, appelle Sarai, Sarah. C'est-à-dire commence à la considérer comme si elle était déjà maman d'Isaac. Commence à la traiter comme si déjà elle était la maman d'Isaac. Commence à vivre ta vie comme si la promesse était déjà visible. En d'autres termes, tu es enceinte. Dernièrement, je disais, Seigneur, les femmes sont marrantes, la mienne encore plus. Et quand elles sont enceintes, tous les paramètres qui changent tout le temps changent encore. Ok les hommes, merci beaucoup, votre soutien super encourageant. Vous êtes des peureux. Et dernièrement, j'ai vécu un moment fort dans ma vie. Je me suis réveillé un matin et ça a duré 6 jours, 6 longs jours avant qu'Elodie ne daigne pouvoir m'aider. J'ai eu une envie de cassouler. Inexplicable. Et encore, cassouler en boîte s'il vous plaît. Et ma chérie l'a fait pour moi. J'ai commencé à comprendre ce qu'une femme voulait dire lorsqu'elle parle de ses envies, de ses humeurs et de tout le tout-team qu'il y a autour. Et je me suis rendu compte que tu ne peux pas faire semblant quand tu es enceinte. Est-ce que tu es enceinte ce soir? Non, la réponse est oui. Pour ceux qui ne savent pas encore, je suis un docteur. Tu es enceinte du Isaac que Dieu a pour toi. Tu ne peux pas te contenter, écoutez bien ça. Pourquoi est-ce que c'est important de changer son nom pour accepter sa mission? Entre termes, commencer à vivre comme si la mission était déjà en route. Pourquoi est-ce aussi important? Écoutez bien ce qui suit. Tu ne peux pas vivre en étant ce que tu étais et en étant ce que tu es. Tu dois faire un choix. Ou bien tu vis selon ton passé en essayant d'avoir la mission, ou bien tu vis comme tu es aujourd'hui pour activer la mission. Tu ne peux pas être les deux en même temps, l'ancien toi et le nouveau toi. Fais un choix. Ce soir, je vous encourage, je vous propose d'être le nouveau nous. le nous que Dieu veut que nous soyons. Regarde ton voisin, dis, change ton nom. Tu n'es plus un perdant, tu es un vainqueur. Tu n'es plus mon mari qui me prend la tête, tu es mon mari qui me fait tourner la tête. Trois, rapidement, verset 26. Le jour même, Abraham fut circoncis, ainsi que son fils Ismaël, et tous les membres de son foyer, qu'ils soient nés chez lui ou aient été achetés à des étrangers, furent circoncis avec lui. Tout d'un coup, Abraham accepte la mission, change le nom de sa femme. Écoutez bien ça. Et Dieu dit, toute ta famille, tout ton foyer, tous ceux qui sont autour de toi doivent être circoncis comme toi. Écoutez bien cela. Mari et femme, église extravagance ce soir, cher Gabriel. Cela nous parle de l'importance des connexions lorsque tu veux accomplir la mission de Dieu. Assure-toi que tous ceux et celles qui sont à tes côtés ont le même désir d'avoir un cœur circoncis. Parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à rêver de mettre des projets en place et qui se connectent à des gens qui n'ont pas du tout le même cœur. Alors ils passent leur temps à se battre pour briser ce qui se pose à eux, de faire alliance avec ceux qui sont pour eux et de travailler avec ceux qui sont pour eux. Idem pour le mariage, le nombre de gens qui me disent « Pasteur, je sais que le gars n'est pas pour moi, mais je l'aime. Mais viens jeter ta tête dans ma main. » Pas de frapper, donc je fais l'inverse, je jette dans ma main. Tu sais que le gars n'est pas proche de Dieu, mais quand même je l'aime. Et mon amour va le changer. Viens, saute dans ma main, viens, je te frappe. Non! Assure-toi que ceux et celles qui sont autour de toi sont connectés à ta mission. Je ne parle pas d'évangélisation, je parle de destinée. Aimez tous ceux et celles qui sont autour de vous. Prêchez la parole de Dieu dans chaque saison, mais soyez sûrs de ceux et celles qui sont dans votre mission, votre foyer, votre famille, votre église. Jésus a dû faire des choix. Si tu es connecté, écoutez bien ça, l'église. Je vais juste vous dire ça ce soir avant de finir. C'est très, très, très profond. Celui qui est continuellement négatif est un rebelle. La négativité est l'expression de la rébellion contre Dieu. Parce que lorsque Dieu dit « Tu peux tout en celui qui te fortifie », lui dit « Ah non, je peux pas, c'est trop dur, j'arrive pas, compliqué, non, tu comprends ?» Et son côté négatif se rebelle contre la parole de Dieu qui dit le contraire. Alors, aime tout le monde, mais pour accomplir ta mission, ne fréquente pas des rebelles. Vous connaissez le passage dans Matthieu 12, 25 qui dit que Jésus dit que toute maison, aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Verset 17. Alors Abraham se prosterna de nouveau la face contre terre et il se mit à rire en disant intérieurement « Et quoi, un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant ? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant ?» Le gars dit « Seigneur, je t'aime beaucoup, mais là franchement, tu vas un peu loin. » Il faut savoir que la première fois qu'Abraham a entendu la promesse de Dieu, il avait 75 ans, Genèse 12. Il avait 75 ans et Dieu lui a dit, de toi sortira les nations de la terre entière. 25 ans plus tard, à 100 ans, Dieu dit, maintenant je vais te dire comment je vais faire, tu auras un fils. Le gars entre-temps a eu le temps d'y penser. Attends, les nations sortiront de moi, Sarah ne peut pas avoir d'enfant, allez hop, la servante, ça fait du bien, on y va, hop. Je vais aider Dieu. Moi, j'ai posé une question aujourd'hui à Dieu. J'ai dit, Seigneur, de toi à moi, pourquoi n'as pas-tu donné la promesse à Abraham quand il avait 30 ans? Attendre que le gars ait 75 ans pour dire à Abraham, tu auras des nations en toi? Et comme il est sûr d'avoir entendu 25 ans, il a fait un bel Ismaël entre-temps, tu dis, à l'âge de 100 ans, maintenant, dans un an, tu auras un fils. Seigneur, pourquoi attendre 100 ans quand tout est impossible pour faire une promesse? Et c'est là où l'espérance est extraordinaire. L'espérance qui vient de Dieu effacera toute impossibilité. Oui, je sais, ça paraît simple, mais je vis selon ces principes. Je ne laisserai jamais un homme ou l'ennemi m'interdire de faire ce que Dieu veut que je fasse. Dieu a dit, la Réunion sera sauvée. Dieu a dit, les stades seront remplis. Dieu a dit, je vais restaurer l'épée prophétique de la France. La France, à l'époque, 1500, même avant, était un peuple prophétique rempli de ce que Dieu voulait faire. Et en 1789, elle a offert cette nation, elle s'est offerte elle-même à la déesse Raison. Depuis le jour où la France s'est offerte à la déesse Raison, elle a perdu son équivalent prophétique. Elle a perdu son épée prophétique. Mais Dieu dit, ça revient. Parce qu'en ce moment, Dieu est en train d'élever un peuple prophétique et n'a pas peur de dire ce que Dieu dit. Alors pourquoi est-ce que Dieu a parlé à Abraham aussi tardivement? Écoutez bien cela. Quatrièmement, parce qu'il veut que tu comprennes que les circonstances ne peuvent pas régner dans ta vie. Ne laisse pas les circonstances régner dans ta vie. Laisse l'espérance changer les circonstances. Si les circonstances te disent c'est impossible, Dieu dit je l'ai promis. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Ton fils est dans la drogue, mais toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Ta femme veut te quitter, mais toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. L'espérance de Dieu est plus grande que ma circonstance. Oui, en ce moment, c'est la crise financière en France. Oui, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, mais tu sais, en ce moment, il n'y a plus d'argent dans les caisses et tout le monde vole tout le monde. Oui, mais Dieu dit dans Deutéronome que c'est lui qui nous donne la puissance pour faire des richesses. Regarde ton voisin, une fois, et dis-lui, mes circonstances ne règnent pas dans ma vie. Dieu est souverain. Et je termine encore 3 minutes, je suis désolé. Dieu se sert, écoutez bien ça, c'est magnifique, Dieu se sert de toute complication. Au verset 18, Abraham dit à Dieu, tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. Au verset 20, Dieu est bon, il dit, en ce qui concerne Ismaël, j'ai aussi entendu ta prière en sa faveur. Oui, je le bénirai. Je dis, j'aime Dieu. Dieu dit, ok, t'as un Ismaël. Je sais ce que tu penses. Je sais ce que tu. Je sais, ok, tu as compliqué ta vie. Écoutez bien ça. Quand je priais, Dieu me dit, tu sais quoi? Les complications révèlent que tu es un conquérant. Celui qui ne fait rien a une vie très simple. Celui qui veut tout conquérir a une vie très compliquée. Et les complications ne sont pas un frein à la conquête, mais ce ne sont qu'un signe que tu es en conquête. La plupart des gens me disent, « Oh Bruno, tu sais, quand tout sera plus simple, alors je travaillerai pour le Seigneur. » Eh bien, tu vas mourir dans ton cercueil. N'attends pas que les choses se simplifient. Travaille pour Dieu, qu'elle soit simple ou compliquée. Dieu te donnera la sagesse. Et alors que tu vas aller de victoire en victoire, de conquête en conquête, que tu vas commencer à avoir des solutions à droite et à gauche, tu vas apparaître comme un conquérant. Un conquérant est plus que vainqueur. Il a vaincu les obstacles, les défis, les problèmes, les attaques, tout ce que tu peux voir autour de toi. Dieu dit, garde tes yeux sur moi, sur ma promesse, et je ferai de toi un plus que vainqueur. Car toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Toute chose. Jérémie 17, 7 et 8, dernier passage très puissant. Béni soit l'homme ou la femme qui se confie en l'Éternel. Ah, j'aime ça. Et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien. Lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse. Il ne cesse pas de produire du fruit. Ça, c'est la personne qui a son espérance en l'Éternel. Et quand son espérance est vivante, la foi est active et il reste connecté au fleuve de Dieu. Et quelle que soit la saison, il traverse les saisons les unes après les autres et son feuillage ne flétrit pas. Et sa vie est belle et les gens viennent goûter à ce que Dieu fait dans sa vie. Ainsi est l'église que Dieu veut construire ici à La Réunion avec vous ce soir. Amen. Si tu es d'accord ce soir, dis Seigneur, je suis d'accord. Église, Je sais que ce message est simple. Mais il est profond. Dieu veut te sortir de ton cercueil spirituel. N'attends pas. N'abdique pas. Ne te contente pas d'Ismaël. Quelles que soient tes erreurs, ton passé, tes problèmes, tes soucis, ce soir, je veux te dire de tout mon cœur que Dieu est pour toi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et voici ma toute dernière question pour toi ce soir. Quelles sont les choses que tu espères? Alors, ce week-end, ce qu'on va faire, vous allez rentrer chez vous ce soir et demain dans la journée si vous le pouvez. Prenez une feuille blanche, un cahier, un calepin, un stylo, un iPad, un iPod. Même un Samsung si vous voulez, c'est pas grave, c'est cool quand même. Et écrivez, réécrivez votre espérance. Réécrivez ce que Dieu vous a dit année après année, mois après mois, semaine après semaine. Et dites, Saint-Esprit, cette espérance-là, c'est elle que tu as mis dans mon cœur. Cette espérance-là active à nouveau ma foi. L'espérance n'est pas un processus, l'espérance est une destination. La foi est un processus. Quelle que soit l'hameçon que tu utilises, si le premier ne marche pas, prends le deuxième, et le troisième, et le quatrième, et le cinquième. Jette ton filet à droite et à gauche, pêche de jour ou de nuit, peu importe ce qui compte, c'est que tu ramènes des poissons. Ce qui compte, c'est que tu accomplisses ta mission. Ce qui compte, c'est que tu fasses naître le fils, l'enfant que Dieu a placé en toi. Parce que Dieu bénit les Ismaël, mais seul l'enfant de l'Alliance donnera naissance à l'héritage pour les générations à suivre. Je ne veux pas quitter cette terre avec mes enfants qui disent « Oh, mon père, il était pasteur ». Non, non, non. Je veux qu'ils disent « Mon père a marqué l'histoire pour le nom de Dieu. Il m'a laissé des mémoriaux. Et mon père m'a laissé un style de vie à imiter. Mon père, mon père, mon père. » Et je vous dis sincèrement, je ne vais jamais acheter de cercueil. Pas la peine de gaspiller ton argent sur un cercueil 5 étoiles. Ni physique, ni spirituel. Ce soir, Église, pour ceux qui peuvent monter avec nous à 9h à l'Église, à la Bonne Nouvelle, au Tampon, en Trois-Mars, Pasteur Chanto, venez, même pour une heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, venez juste prier. Cherchez pas à nous se comparer, qui prie moins, qui prie mieux, qui prie plus fort, on s'en fiche. Fléchissons le genou, car si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, renonce à ses mauvaises œuvres, tourne le dos au péché, cherche ma face, alors je guérirai ce pays. Ton Ismaël ce soir n'a plus d'impact dans ta vie. Si tu crois que ce message est pour toi, je ne ferai qu'un appel une seule fois. Si tu crois que ce message t'a touché ce soir et tu dis, Seigneur, je veux que c'est Isaac ça ? Israël ou Isaac ? Isaac, je veux que Isaac naisse. Même si j'ai des Ismaël dans ma vie, je sais que tu vas travailler sur mes complications. Je sais que ce n'est pas ces complications-là qui vont empêcher Isaac de naître, parce que Ismaël n'a jamais empêché Isaac de voir le jour. Il aurait pu. Parce que Abraham aurait pu dire, Seigneur, ben, je me contente d'Ismaël. Mais non, Dieu l'a dit, ne te contente pas d'Ismaël. Il y a Isaac qui vient juste après. L'enfant de la promesse. J'ai une parole pour toi, mon cher Johan. Pas ce soir. Là, bientôt. Le bout en moi. Toi, tu es sur le point de voir ton Isaac naître. Ismaël, c'est terminé. Si ce soir, tu es dans ce lieu et tu me dis, j'avoue, j'ai laissé trop longtemps mon Ismaël me laisser dans une situation où je me suis contenté d'Ismaël, j'ai commencé à oublier que je suis un enfant de Dieu, qu'il y a une promesse extraordinaire, un appel extraordinaire, une onction extraordinaire, un feu extraordinaire, une destinée extraordinaire. Je veux ce soir me réveiller de mon cercueil et dire que tout ce que Dieu a mis en moi verra le jour. Excellent, prophétise, continuons ça. Plus de piano, s'il vous plaît, plus de piano. Ce que tu entends. Allez-y.
J'entends les anges chanter Alléluia.
Un cri de joie.